Jonathan Cohen. Donc, le docteur Jonathan Cohen, il est gynécologue, obstétricien, spécialiste des traitements de PMA, de fertilité, notamment des inséminations artificielles et des FIV. Et il a une spécialité particulière qui sont sur les fausses couches à répétition. Il a une bonne quinzaine d'années d'expérience et aujourd'hui, il va gentiment mettre à disponibilité son expérience pour nous à travers ce webinaire de ce soir. Alors, le déroulé du webinaire, c'est qu'il y a une liste de questions auxquelles Jonathan va répondre. Et puis, à la fin, il y a quelques questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et puis, à la fin, on piochera quelques questions et le docteur y répondra. Voilà. Jonathan, tu veux te présenter brièvement ou c'est bon? Tu veux qu'on commence par la première question? Qu'est-ce qui...
Très bien. Bah, bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis très content de pouvoir exposer ce sujet difficile et complexe, mais à essayer de le faire le plus simplement possible pour pouvoir répondre aux questions de nombreuses personnes.
Alors, on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir qu'est-ce qui définit des fausses couches à répétition? À partir de quoi on parle de fausses couches à répétition?
Tout à fait. Donc, on parle de fausses couches à répétition. Il y a un grand débat dans la littérature internationale. En fait, tout le monde se bat pour dire est-ce qu'il faut parler de fausses couches à répétition à partir de 2 ou à partir de 3. Donc, on va garder l'idée le plus communément acceptée, c'est 3. À partir de 3 fausses couches, on considère en fait que c'est anormal. On considère qu'avant 3 fausses couches, en fait, ce sont des événements qui sont normaux dans la vie d'une femme, même si ce sont des événements qui sont difficiles, qui sont douloureux, qui sont très très pénibles. On considère que avant 3 fausses couches, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire tout un bilan un bilan pour rechercher la cause de ces fausses couches. Après, en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de l'histoire de la patiente, en fonction de son histoire obstétricale, est-ce qu'elle a déjà des enfants ou pas, ça peut se moduler et on peut parfois faire le bilan à partir de 2 fausses couches.
D'accord. Et quelles sont les causes des fausses couches à répétition?
Alors, donc, les fausses couches, il y a en fait 2 causes principales. Donc, qu'est-ce que c'est une fausse couche déjà? Parce que parfois, on entend parler de œuf clair, de grossesse arrêtée, de saignement important. En fait, on parle pour une fausse couche, c'est toute situation où une femme est enceinte et la grossesse s'arrête avant, on pourrait dire, avant l'échographie du premier trimestre, c'est-à-dire avant 14 semaines d'aménorrhée. Donc, ça peut arriver soit de façon spontanée, la grossesse se passe bien, puis tout d'un coup, la femme a des saignements et elle fait la fausse couche à la maison, ou bien, lors d'un contrôle échographique, on se rend compte que l'embryon qui évoluait normalement, tout d'un coup, n'évolue plus, ça s'appelle une grossesse arrêtée, et ça rentre tout à fait dans le cadre des fausses couches, comme on les appelle, ou bien, dès le début, il y a un souci, c'est-à-dire que le sac gestationnel à l'échographie est trop petit, puis finalement, une semaine après, il n'évolue pas bien, puis il n'évolue toujours pas. Donc, c'est une grossesse qui n'évolue pas. Ensuite, on parle aussi parfois, vous avez peut-être entendu l'expression de œuf clair. En fait, le mot œuf clair, c'est simplement quand on voit à l'intérieur de l'utérus à l'échographie un sac gestationnel. Donc, on voit un rond noir, mais il n'y a pas dedans ni d'embryon, ni de vésicule vitelline. Donc, tout ça rentre aussi, cet œuf clair, qui peut avoir une origine embryologique. Souvent, on peut dire que dans l'œuf clair, il y a simplement la partie autour de l'embryon qui s'est développée, et la partie qui doit donner le bébé ne s'est pas développée. Donc, en fait, c'est le placenta qui se développe sans bébé. L'œuf clair, ça rentre aussi dans les fausses couches. Donc, il y a plusieurs causes possibles aux fausses couches. Il y a aussi des fois où on ne sait pas la cause. D'ailleurs, le plus souvent, on ne sait pas la cause de la fausse couche. Donc, il faut, pour simplifier les choses, imaginer que la fausse couche, elle peut venir de 2 raisons principales. Soit elle vient de l'embryon, soit elle vient de l'endomètre, c'est-à-dire, on pourrait dire, de l'utérus qui est censé accueillir l'embryon. Alors, qu'est-ce qui, chez un embryon, va créer une fausse couche? Et c'est la raison la plus fréquente, en fait. Et c'est le plus simple, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est une anomalie dans les chromosomes de l'embryon, c'est-à-dire un embryon qui est anormal. Il faut m'interrompre si vous ne comprenez pas ce que je dis, s'il y a des choses qu'il faut que je clarifie, n'hésitez pas. Un embryon qui présente une formule chromosomique anormale, dans la plupart des cas, soit il ne va pas s'implanter, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de grossesse en fait à tous les cycles, principalement dans l'espèce humaine, sinon les femmes, elles pourraient être enceintes à chaque fois qu'elles essayent. Et dès qu'il y a une anomalie chromosomique, il n'y a pas d'implantation. Parfois, il y a des anomalies chromosomiques qui vont donner une implantation, mais ça va donner une fausse couche, une grossesse arrêtée, une trisomie 4, une trisomie 17, une trisomie 14, le fait qu'il n'y ait pas de chromosome 3, par exemple. Et puis, il y a certaines anomalies chromosomiques qui sont bien connues parce qu'elles donnent des embryons qui vont se développer et qui vont donner des bébés malades. La trisomie 21, par exemple, c'est une anomalie chromosomique. La trisomie 13, la trisomie 18, ça donne des embryons qui se développent. Donc voilà, la première grande cause des fausses couches, c'est une anomalie dans les chromosomes de l'embryon. Après, on pourrait essayer, parce que je ne veux pas être trop complexe, on pourrait expliquer d'où vient cette anomalie. C'est assez simple à comprendre aussi. Et l'autre cause, c'est l'utérus. L'embryon normal ne s'est pas implanté correctement dans, en tout cas, il s'est implanté, mais il n'a pas pu se développer complètement dans l'utérus. Alors, il y a des raisons là qui sont prouvées, c'est-à-dire typiquement la malformation utérine, par exemple, une grosse cloison au milieu de l'utérus, ça peut, dans certains cas, créer des fausses couches à répétition, c'est-à-dire les embryons normaux arrivent dans l'utérus, puis ils vont s'implanter au mauvais endroit sur une cloison, et cette cloison, elle n'est pas faite pour accueillir un embryon. Et du coup, il va y avoir une fausse couche. Il peut y avoir aussi parfois des énormes, par exemple, un gros fibrome, un gros polype. Ça, ce sont des grosses malformations utérines. Ensuite, il y a un syndrome qui est connu, qui s'appelle le syndrome des antiphospholipides. Et là, c'est un syndrome hématologique, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie dans le sang de la femme qui fait qu'il ne va pas pouvoir y avoir d'implantation. Donc, en fait, j'ai dit deux, mais on pourrait dire qu'il y a trois grandes causes. Puis, il y a le cas où on dit, mais je ne sais pas pourquoi, on n'a pas compris pourquoi. On sait que l'embryon était normal, et ça, je vous expliquerai aussi comment on peut le savoir. On n'a pas trouvé d'anomalie sur l'utérus. À l'échographie, l'utérus est normal, l'endomètre est beau, et pourtant, la patiente fait des fausses couches. Et dans ce cas, on va supposer une cause immunologique. C'est-à-dire, la théorie, c'est de dire que l'embryon ne peut pas s'implanter parce qu'il est rejeté par l'organisme maternel. Pourquoi est-ce qu'il est rejeté? Eh bien, un embryon, il présente des antigènes, c'est-à-dire des marques de la mère, mais il présente aussi des petites marques du père, des antigènes d'origine paternelle. Et normalement, un antigène étranger est rejeté par un organisme. Et la grossesse, pour que la grossesse marche, normalement, il faut que les défenses immunitaires de l'utérus, de l'endomètre, diminuent pour accueillir un embryon. Et parfois, ces défenses immunitaires ne diminuent pas, et du coup, il y a un rejet de l'embryon. Donc, on va dire, en résumé, soit l'embryon est anormal, soit il y a un problème hématologique, c'est assez rare, qui va faire qu'il n'y a pas d'implantation et ça fait des fausses couches à répétition. Soit l'utérus est anormal, soit il y a un problème immunologique de rejet de l'embryon.
Et du coup, en fonction des trois cas différents que tu as cités, quelles sont les méthodes de prise en charge des fausses couches?
Alors, prise en
Une
charge.
femme qui arrive et qui a fait une fausse couche, comment on la prend en charge ou qui est en train de
Alors là,
faire?
donc là, la question pour bien clarifier, c'est comment on s'occupe d'une grossesse arrêtée, par exemple. Donc là, ça n'a pas de rapport avec la cause, en fait. La grossesse est arrêtée, on n'est pas là pour réfléchir à pourquoi la grossesse est arrêtée, c'est pas le moment. En fait, là, on doit traiter le problème médical. Et ça, c'est une question que les patientes, à laquelle les patients qui font des fausses couches, donc, se trouvent face à ce problème, et elles vont demander à leur médecin. Comment on va s'occuper de ce sac gestationnel qui est dans mon utérus et pourtant il n'est pas expulsé, j'ai pas fait la fausse couche. Il y a trois façons de faire. Soit on dit à la patiente, le sac gestationnel a arrêté son évolution, du coup on va attendre que vous fassiez la fausse couche naturellement. C'est ce qu'on appelle expectative. Deuxième technique, on va utiliser des médicaments. Des médicaments qui vont faire des contractions, donner des contractions à l'utérus et la patiente elle va faire une expulsion, elle va perdre le sac gestationnel, elle va faire donc la fausse couche, mais induite par des médicaments. Et la troisième technique, c'est curetage, aspiration, c'est la même chose, c'est-à-dire au bloc opératoire, sous anesthésie générale, on va aspirer le contenu de l'utérus. Alors,
D'accord.
je vous enlève la question de la bouche. Comment
Non.
choisir? Oui,
Comment
comment?
voilà. Comment choisir et quelles sont les conséquences en fait?
Ben
Comment
voilà.
voilà.
Comment choisir? Alors, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la méthode expectative, Comme la méthode médicamenteuse, en fait, c'est qu'il ne va pas y avoir d'acte chirurgical sur l'utérus. On trouve qu'on ne va pas toucher à l'utérus. Donc, du coup, on peut s'imaginer que c'est quand même moins traumatisant. Traumatisant dans le sens physique, hein, c'est-à-dire pour l'utérus, pas de risque utérin, puisqu'on ne touche pas à l'utérus. Et le point négatif de cette méthode, c'est une méthode qui est traumatisante, par contre, là, plutôt psychologiquement, puisque la patiente va se retrouver, que ce soit à l'hôpital, très rarement, la plupart des cas, à la maison, avec des saignements et des douleurs, des saignements abondants, et ça peut être assez impressionnant, à la maison. Alors c'est facile pour le médecin de dire, bon, bah, allez-y, prenez ces médicaments, vous allez un peu saigner, puis vous revenez nous voir dans une semaine, tout sera très bien, mais en attendant, la patiente va vivre un moment très difficile. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise option, mais il faut en tout cas savoir à quoi s'attendre. Ça peut être très douloureux et très un peu traumatisant. Et le troisième cas, l'aspiration au bloc opératoire, bah, l'avantage, c'est que c'est extrêmement confortable pour la patiente. Elle vient le matin, anesthésie générale, on fait l'aspiration, puis l'après-midi, elle rentre à la maison, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais il y a des inconvénients. C'est que là, effectivement, on touche à l'utérus et on peut s'imaginer que s'il y a des aspirations répétées, par exemple, si la patiente fait plusieurs fausses couches, il peut y avoir parfois des conséquences qui sont des adhérences à l'intérieur de l'utérus qu'on appelle les synéchies. Ou bien on peut s'imaginer qu'on va un petit peu affiner la muqueuse utérine au fur et à mesure. Et donc, c'est ça les conséquences négatives. Donc moi, personnellement, et mes collègues aussi en général, faut dire la vérité aux patients. Faut pas essayer de les envoyer, de les embarquer dans ce que nous on voudrait, parce qu'en fait certaines patientes ont leur idée. Elles se disent, moi, il n'est pas question que je fasse une fausse couche à la maison, j'ai entendu parler de ça, ou bien je l'ai déjà vécu et je ne veux pas revivre cette situation traumatisante. Et dans ce cas, il faut lui dire non, dans ce cas, on va pas refaire ça, on va faire l'aspiration au bloc opératoire. Il y a d'autres femmes qui disent, moi, pas question que j'aille au bloc opératoire, je ne supporte pas cette idée, c'est naturel, la fausse couche, je veux que ça se passe naturellement à la maison et je suis prête à le supporter. Très bien. Et on va respecter ça. Moi, j'avoue que je vais un petit peu influencer en fonction du profil de la patiente. Par exemple, une patiente qui a déjà accouché deux fois par voie basse, déjà, je pense que ça sera plus facile pour elle, je pense, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je pense, que ça sera plus facile pour elle de supporter la fausse couche à la maison. Pourquoi? D'abord, elle a déjà des enfants, donc la fausse couche est un petit peu moins impactante psychologiquement. Elle sait qu'elle peut faire des enfants, elle en a la preuve puisqu'elle en a à la maison. En plus, elle a déjà accouché par voie basse, donc le passage est un petit peu plus facile pour sortir quelque chose de l'utérus. Alors qu'une patiente jeune, par exemple, qui a jamais été enceinte, c'est sa première grossesse, elle attendait la grossesse, par exemple, depuis un an, c'est la fin du monde, la grossesse arrêtée. Donc, si on peut, en fonction du profil, moi, je proposerais plus parfois l'aspiration, surtout si le sac gestationnel est un petit peu gros, plutôt que d'imaginer cette jeune femme qui aurait jamais, qui savait même pas que ça existait, les fausses couches, qui est enceinte, et qui tout d'un coup, et je sais pas si elle pourra supporter la fausse couche à la maison, mais je vais discuter avec elle. Si cette femme me dit non, non, je veux pas qu'on touche à l'utérus, bien sûr, je respecterai son choix.
Alors, dans le cas d'une femme qui a donc fait, si je comprends bien, plusieurs fausses couches, hein, puisqu'on parle de fausses couches en répétition, en tant que gynécologue, quand elle vient te voir, qu'est-ce que tu lui proposes comme bilan? Quel bilan elle doit faire pour que ça ne, pour savoir ce qui se passe et pour que ça ne réarrive plus? Dans l'idéal, évidemment.
Bien sûr. Alors, bah, le bilan, il va découler évidemment des points qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a certaines causes qui sont connues. Alors, on va rechercher ces causes, puisque certaines sont curables, on peut les soigner. Alors, la situation qu'on pourrait le plus facilement traiter, c'est une anomalie de l'utérus qui serait curable. Typiquement, je vous ai parlé de la cloison. Donc, s'il y a une patiente qui a fait plusieurs fausses couches et on fait à l'échographie et on trouve une anomalie dans l'utérus qu'on peut traiter, là, c'est une très bonne situation. Donc, premièrement, un bilan utérin. Ce bilan utérin, il va d'abord une simple échographie. Et on peut faire aussi, il y a différentes techniques maintenant qu'on appelle hystérosonographie, par exemple. On va regarder dans l'utérus en mettant un petit peu d'eau dans la cavité utérine pour voir la cavité utérine. Et on peut aussi faire une hystéroscopie. Une hystéroscopie, on va regarder avec une petite caméra à l'intérieur de l'utérus pour bien évaluer la cavité utérine. Donc voilà, échographie, hystérosonographie et hystéroscopie, ça c'est pour le bilan utérin. Ensuite, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des anomalies chromosomiques. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure un petit peu l'anomalie chromosomique, mais On va d'abord rechercher une cause rare, qui est l'anomalie chromosomique chez un des deux parents. Il est possible que le père ou la mère ait une anomalie chromosomique qui ne soit pas visible chez eux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des translocations. Par exemple, un homme ou une femme a échangé des petits morceaux de chromosomes à l'intérieur même de son caryotype à elle. C'est-à-dire que elle a tous les gènes, vous pouvez avoir tous vos gènes, et vous pouvez avoir un petit échange entre le chromosome 2 et le chromosome 8, par exemple. Et donc vous avez un petit bout du chromosome 2 sur le chromosome 8 et un petit bout du chromosome 8 sur le chromosome 2. Donc moi, si j'ai ça, par exemple, je suis normal parce que j'ai tous mes gènes, mais par contre, mes chromosomes, ils ont inversé leur formule. Eh bien, quand je vais donner un de mes gamètes pour faire un embryon, il se peut que je donne le chromosome 2 avec un petit bout de 8, plus mon chromosome 8, plus la femme va donner un chromosome 8, ça fait donc une trisomie 8. Et ça fait des anomalies chromosomiques chez l'embryon. Et ça, on peut le voir chez les parents. Et si on trouve une anomalie chromosomique chez le père ou chez la mère, il y a un traitement. On ne peut pas traiter, évidemment, les chromosomes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une fécondation in vitro et tester les embryons. Parce que sur quatre embryons, il y en aura peut-être un qui sera normal, par exemple. Et s'il est normal, il ne va pas donner de fausse couche. Alors que les trois autres, qui sont anormaux, vont donner une fausse couche. Donc, on a dit, on va regarder l'utérus et on va regarder le caryotype parental. Ensuite, je vous avais parlé des problèmes immunologiques et des problèmes hématologique. Donc, on va faire un bilan sanguin pour rechercher d'abord le syndrome des antiphospholipides dont je vous ai parlé. On va rechercher d'autres maladies immunologiques. Par exemple, on peut rechercher les anticorps de la thyroïde. Il y a eu tout un débat au début. On a vu, on s'est dit, les patients qui ont les anticorps contre la thyroïde, elles font des fausses couches. On va les traiter par les médicaments qu'on donne aux patients qui ont une hypothyroïdie. On a remarqué. Au début, on a cru que ça marchait, après on s'est rendu compte, en fait, finalement, c'est pas idéal, ça marche pas. Et par contre, c'est un indice. Les patientes qui ont des anticorps très élevés contre la thyroïde, ça peut être un indice pour se dire qu'elles ont un système immunitaire qui marche fort, et peut-être qu'elles font partie de ces patientes qui vont avoir tendance à rejeter l'embryon, et du coup, peut-être qu'il y aura un intérêt à les traiter par les médicaments qui vont baisser l'immunité. Et ensuite, il faut pas oublier le versant masculin. Avant, on ne le testait pas. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui est très intéressant de regarder chez les hommes. C'est pas forcément le spermogramme. Parce que, évidemment, si une patiente fait des fausses couches à répétition, ça veut dire qu'il y a eu fécondation. S'il y a eu fécondation, c'est que les spermatozoïdes ont réussi à faire le chemin jusqu'à l'ovocyte, le féconder. Donc, ce sont des spermatozoïdes qui fonctionnent bien. Et par contre, il y a un nouvel examen qui s'appelle la fragmentation de l'ADN spermatique. Et cet examen, c'est pas encore complètement compris. On a remarqué quand cette analyse est altérée, qu'il y a une fragmentation élevée du code génétique dans le spermatozoïde, il y a une augmentation des fausses couches. On n'a pas encore l'explication totale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des causes à cette fragmentation, des causes qu'on peut soigner. Par exemple, la dilatation des veines dans les testicules des messieurs. Et ça peut se traiter. Du coup, on peut diminuer la fragmentation. Bien, on a remarqué que certains traitements par antioxydants, par vitamines, pouvaient diminuer cette fragmentation et du coup, on peut diminuer les risques de fausses couches. Donc, le bilan, voilà, il y a une prise de sang, il y a un bilan utérin avec la morphologie et il y a l'examen des spermatozoïdes.
Petite question supplémentaire. Quand on fait un parcours de fertilité, le gynécologue qui nous suit, il est à même de faire ce bilan-là. Il ne faut pas voir un spécialiste des fausses couches. Ça peut être le gynécologue qui nous suit.
Ça peut être le gynécologue qui vous suit, mais c'est pas pour. Il n'y a pas beaucoup de. Le bilan, tout le monde va le faire. Le bilan, tout le monde le connaît. Après, c'est pas tout le monde qui va faire forcément le bilan chez le monsieur. Donc ça, bah, n'hésitez pas à demander à votre gynécologue parce que c'est pas une spécialité qui est extrêmement connue, les fausses couches à répétition, parce que bah, c'est une spécialité qui est difficile. Les résultats sont. Je vais vous le dire, il y a pas de solution miracle pour les fausses couches à répétition. On n'a pas aujourd'hui trouvé le remède miracle. Donc c'est difficile. On tâtonne. On doit supporter, faut accompagner, supporter supporter au sens anglais, quoi, vraiment soutenir les patientes dans ces moments difficiles, dans ces échecs répétés. Et donc oui, tous les gynécologues ont appris le cours fausse couche à répétition. Voici le bilan qu'ils vont faire. Mais après, faut pas hésiter quand même à se diriger vers certains médecins qui s'y connaissent un petit peu plus. Et
D'accord.
il y a des médecins qui ne sont pas gynécologues qui s'intéressent aux fausses couches à répétition. Il y a certains médecins, des médecins internistes, des hématologues et des immunologues. Donc moi personnellement, je travaille main dans la main avec un immunologue. Je suis pas tout seul parce que comme on va en parler tout à l'heure peut-être, il y a certains traitements qu'on donne qui sont pas encore validés aujourd'hui par la disons le code de la médecine internationale qu'on n'a pas vraiment le droit de donner, mais qu'on utilise quand même. Et moi j'avoue que je suis plus à l'aise de travailler avec un immunologue qui lui en plus a une vision totalement différente de la mienne. C'est très intéressant, mais très complémentaire puisque l'immunologue va pouvoir travailler avec le gynécologue et on va être main dans la main pour avancer dans ce traitement. Donc oui, un gynécologue peut faire le bilan, mais s'il n'est pas à l'aise avec le sujet, il faut adresser un gynécologue qui connaît mieux le sujet.
D'accord. Justement, en parlant des traitements, quels sont les traitements qu'on propose aux femmes qui font des fausses couches à répétition?
Ah, bon, alors là, je préfère le dire tout de suite, donc j'espère que tout le monde ne va pas décrocher son micro dès que je vais le dire. Mais aujourd'hui, en 2023, nous n'avons pas encore trouvé le traitement qui va permettre de soigner les fausses couches à répétition. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut simplement apprendre, il faut changer la façon de réfléchir avec les fausses couches à répétition. C'est-à-dire, il faut essayer de s'orienter dans un sens ou dans l'autre. Alors, le plus important à savoir, la majorité des fausses couches à répétition, les fausses couches sont liées à des problèmes chromosomiques, comme je vous l'ai expliqué au début. D'accord? Comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce qu'on a analysé les produits de fausses couches. Il y a une équipe américaine qui a analysé plus de 40 000 produits de fausses couches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une patiente faisait une fausse couche, on prenait le produit de fausse couche et on l'envoyait au laboratoire de cytogénétique. Ce n'est pas le laboratoire d'anatomopathologie qui va regarder le tissu, on pourra en reparler après. C'est très technique, mais c'est le laboratoire qui va regarder les chromosomes. Et ce laboratoire, il a même de dire si cet embryon était normal ou pas normal. Donc, si une patiente a fait une fausse couche, comme ça on va prendre un cas, et on a pu analyser le produit de fausse couche, et il y avait une anomalie chromosomique, par exemple une trisomie 4, la seule chose qu'on pourrait soigner, c'est si l'un des parents a une anomalie chromosomique aussi. Donc, on fait le karyotype, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les deux parents ont un karyotype normal. Comment cet embryon a une trisomie 4? Comment c'est possible? Je vais vous l'expliquer. La trisomie 4, l'anomalie chromosomique, elle a lieu le plus souvent au moment de l'ovulation, au moment de l'ovocyte même. C'est-à-dire que l'ovocyte va sortir du follicule, et figurez-vous que l'ovocyte, il était bloqué dans sa division cellulaire depuis que la femme est elle-même dans le ventre de sa mère. Et du coup, elle a tout un stock d'ovocytes qui est bloqué dans sa division cellulaire. Et il va avoir le droit, l'ovocyte, de diviser sa cellule en deux, c'est-à-dire de faire deux cellules qui sont fécondables uniquement à l'ovulation. Alors, imaginez un ovocyte qui a attendu 25 ans, c'est pas la même chose qu'un ovocyte qui a attendu, par exemple, 43 ans. Et c'est pour ça que chez une femme de 43 ans, il y a beaucoup plus d'anomalies chromosomiques chez l'embryon que chez une femme de 25 ans. C'est pas un hasard. Parce que les chromosomes sont un petit peu collés au bout de 43 ans, par exemple. Et du coup, ils vont avoir du mal à se décoller. Et il va y avoir deux chromosomes qui vont partir d'un côté et un chromosome et zéro qui part de l'autre. C'est le cas typique dont je vous parlais tout à l'heure de la trisomie 21. C'est le plus fragile. Le chromosome 21, c'est celui qui va le plus souvent rester collé avec son ami et partir du même côté de l'ovocyte. Et donc, quand il y a cette anomalie chromosomique chez l'ovocyte, un ovocyte arrive avec deux chromosomes 21 ou avec deux chromosomes 4 ou avec deux chromosomes 1, va rencontrer un spermatozoïde qui arrive avec un chromosome 21 et ça va faire un embryon avec 3 chromosomes 21, 3 chromosomes 4, 3 chromosomes 1. Vous comprenez? Et ça n'a pas de rapport avec le karyotype des parents. Ça n'a pas de rapport ni avec le karyotype, c'est-à-dire avec les chromosomes du père, ni avec les chromosomes de la mère. C'est un accident qui a eu lieu au moment de l'ovulation. Cet accident, il peut aussi venir du spermatozoïde de façon un peu plus rare, mais c'est possible. Il peut venir même au moment de l'embryon. L'embryon, il est normal. Il est un embryon normal, mais au moment de ses premières divisions, il va faire des erreurs lui-même. Eh bien, ça, on ne va pas le soigner. Il n'y a rien à faire contre ça. Et c'est lié à la malchance. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de donner des traitements aspirine, Lovenox, Cortensil, toutes sortes de médicaments. Il n'y a pas, il faut dire la vérité, une patiente qui a fait une fausse couche et on sait qu'il y avait une anomalie chromosomique, il n'y a pas de traitement pour ça. On va lui proposer deux choses. Soit bah, recommencer, puisque essayer de nouveau d'être enceinte. Cette fois, vous allez peut-être tomber sur un embryon normal. C'est la meilleure chose à faire. Ou bien, on peut proposer autre chose. On peut lui dire, bon, maintenant, vous avez fait 6 fausses couches, par exemple. On a vu à chaque fois une anomalie chromosomique. Alors, Il y a deux solutions. Soit vous dites, bon, maintenant j'en ai marre, mes ovocytes, je leur fais plus confiance, par exemple, j'ai toujours une anomalie chromosomique. On peut aller au don d'ovocytes. On va prendre les ovocytes d'une autre femme, une femme jeune, et on va faire des embryons avec, et on va voir, normalement, si le problème était chromosomique, puisqu'une jeune femme a moins de chances, moins de risques que cette femme-là d'avoir une anomalie chromosomique, on va diminuer les risques de fausse couche. Ou bien, si elle ne veut pas aller au don d'ovocytes, on peut essayer de faire une autre méthode, qui est une fécondation in vitro, et tester les cellules de l'embryon avant de l'implanter. Peut-être que cette patiente, elle va faire 6 embryons, et peut-être que sur les 6 embryons, il n'y en aura aucun qui aura une formule chromosomique normale. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire si aucun n'est normal? On va pas transférer d'embryon. La patiente, malheureusement, elle sera pas enceinte, et par contre, elle va pas faire de fausse couche non plus. Donc là, ça serait une façon de diminuer les risques de fausse couche, de faire l'analyse chromosomique. Par contre, les détracteurs de cette technique, les gens qui disent ne faites pas ça pour les fausses couches, ils disent ça n'augmente pas vos chances de grossesse. Je leur dis c'est vrai. Regardez les embryons au microscope, de regarder les chromosomes des embryons avant de les transférer. Ça augmente pas les chances de grossesse, c'est sûr, parce qu'on peut pas fabriquer des beaux embryons. Mais ça diminue les risques de fausse couche. Je sais pas si ça a été clair.
Parce qu'on sélectionne les embryons.
Si on sélectionne un embryon sans si on prend une personne, par exemple, de 38 ans, qui a fait 5 fausses couches, on lui fait une fécondation in vitro, d'accord? On obtient, par exemple, 5 embryons. Et on teste tous les embryons avec un diagnostic préimplantatoire. Les 5 embryons sont anormaux. Du coup, on va pas les transférer. Elle va pas avoir de grossesse, c'est vrai, mais elle va pas faire de fausse couche. Donc, on n'a pas augmenté ses chances d'avoir un bébé, mais on a diminué ses risques de faire une fausse couche. Sans oublier ce qu'est l'impact d'une fausse couche sur une patiente. Par contre, le côté positif, c'est que si sur 5 embryons, il y en avait un qui était normal, on va le transférer et là, on va augmenter les chances de grossesse. Donc là, je vous ai parlé du traitement, mais vous avez bien compris qu'il n'y a rien en plus. Là, je ne veux pas passer pour un charlatan qui vous dit je vais vous sortir du chapeau la méthode. Je vous donne des pistes. Pour une patiente qui a fait une fausse couche et on sait qu'il y avait une anomalie chromosomique, voilà la méthode qu'on peut proposer. Soit recommencer à essayer d'être enceinte naturellement, soit faire une fécondation in vitro et tester les embryons. Maintenant, plus intéressant, plus, disons, challenging pour le médecin et pour l'immunologue, voici une patiente qui a fait une fausse couche et on a pu prouver, on a récupéré le produit de fausse couche, c'est pour vous montrer à quel point c'est important de le récupérer, et on a vu que le karyotype était normal. Donc là, on a une patiente qui a fait une fausse couche, elle a 39 ans,
L'anomalie chromosomique.
tout le monde lui a dit, tous les gynécos, les médecins, mais c'est normal, t'as 40 ans par exemple, c'est une anomalie chromosomique, c'est pas grave, recommence. Mais non, mon médecin, il a récupéré le produit de fausse couche, il l'a envoyé, et on a vu que c'était un karyotype normal, 46XY, c'est un fœtus de karyotype masculin. Alors là, on va pas dire recommencer. Aujourd'hui, il y a certains immunologues qui ont le courage d'essayer des traitements alors qu'ils ne sont pas validés. Et les traitements, ce sont lesquels? Eh bien, ça va être par exemple les corticoïdes qu'on utilise d'habitude pour d'autres maladies, les maladies auto-immunes par exemple. Ça va être même le plaquénil, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, le médicament qui avait fait grand débat en France à l'époque du professeur Raoult, médicament miracle contre le Covid-19. Eh bien, effectivement, ce médicament, il a des propriétés immuno et donc immunomodulatrices. Et puis, il y a certains immunologues qui vont essayer d'autres médicaments plus puissants, comme les anti-TNF-alpha, comme d'autres médicaments. Et ça, c'est à l'état de recherche aujourd'hui. Mais aujourd'hui, un médecin qui vous dit qu'il n'y a pas de traitement pour les fausses couches, il a raison. Parce qu'il n'y a pas un traitement pour lequel on a réussi à prouver son effet. Vraiment son efficacité. Et comment est-ce qu'il faudrait faire pour le prouver? Il faudrait avoir des patientes. Donc là, je ne sais pas si c'est pas trop complexe, mais il faudrait que les patientes, il faudrait qu'on ait des patientes qui ont fait des fausses couches. Donc on est sûr qu'elles ont déjà fait une fausse couche avec un produit de fausse couche normal et chez lesquelles on va essayer ces nouveaux traitements. Et ça, ce sont des études qui sont très difficiles à mener parce qu'il faut recruter des patientes chez qui on a vérifié le produit de fausse couche. Avoir des équipes qui vont avoir le courage d'essayer des médicaments et toujours essayer des médicaments chez des patientes enceintes, c'est extrêmement difficile pour passer les commissions éthiques et c'est normal. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas essayer, tiens, on va essayer n'importe quel médicament. On sait très bien que les médicaments peuvent avoir un impact sur le développement du fœtus. Du coup, ce sont des études qui n'ont pas encore été réalisées. Mais si vous voulez, je peux vous dire, certaines patientes peut-être vont écrire ici, mais moi, on m'a donné de l'aspergique, moi, on m'a donné du Lovenox. On m'a donné du Clexane ou du Lovenox, on m'a donné aspirine, micropirine. Ce sont des médicaments conduisent très souvent dans les fausses couches. Il y a des études qui ont été faites pour ça. Après, un très
Juste pour
grand
comprendre,
nombre, oui.
ces médicaments, ce sont des fluidifiants, juste pour comprendre, parce que pourquoi on n'aime pas
Alors,
ces médicaments?
oui,
Ce sont des fluidifiants?
l'aspirine, c'est un médicament qui va avoir effectivement un effet, on peut dire, anti-agrégant plaquettaire, qui va avoir un effet de fluidifier le sang. Et l'héparine aussi, le Clexane ou le Lovenox, ce sont des médicaments aussi qui ont un effet anticoagulant.
D'accord.
On les a beaucoup donnés à une époque dans le traitement des fausses couches à répétition, jusqu'à ce qu'on fasse des études et qu'on réalise que si on prenait 1000 patientes qui ont fait 3 fausses couches, on leur donne l'aspégique, et d'autre côté, on prend 1000 patientes qui ont fait 3 fausses couches, on leur donne un placebo, c'est-à-dire un faux médicament, et aucune des deux ne sait ce qu'elles ont pris. Il y a des patientes qui avaient fait 3 fausses couches, qui ont pris l'aspégique, elles ont eu 68%, 68% d'entre elles ont eu un bébé. C'est génial. Et regardons dans le groupe placebo, 68% d'entre elles ont eu un bébé aussi. Donc le placebo, c'est génial aussi. Ça marche aussi bien. Ou plutôt, on doit dire que l'aspégique ne fonctionne pas. Pas forcément. Il y a certainement des patientes chez qui ça fonctionne, en tout cas chez les patientes qui ont le syndrome des antiphospholipides. Et si on prend des patients, toutes les patientes qui ont fait 3 fausses couches, eh bien, la plupart, d'abord, elles vont avoir un bébé sans traitement, et l'aspégique ne fonctionne pas chez elles. Et je voudrais donner maintenant un petit peu être un petit peu positif pour mettre un peu la meilleure ambiance, pour vous dire que les fausses couches, comme je vous l'ai dit, c'est très fréquent. Et grâce à ces études qu'on a faites, on sait qu'une patiente qui a fait 3 fausses couches, donc écoutez-moi bien ça, elle a 7 chances sur 10 d'avoir un bébé à la 4e grossesse. C'est énorme. 70%, sans rien faire, sans prendre d'aspégique, sans prendre de Lovenox, sans faire des incantations ou faire le poirier, elle aura un bébé à la 4e grossesse. C'est très important de le savoir, d'accord? Donc 3 fausses couches de suite, c'est extrêmement déprimant, c'est extrêmement angoissant. On croit qu'on va jamais y arriver, on n'aura jamais de bébé, je suis maudite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien non. À la 4e grossesse, vous avez 68% de chances d'avoir un bébé. Et ensuite, un autre élément que je veux dire pour permettre un petit peu de faire la différence entre le hasard, c'est-à-dire le problème de chromosome, ou bien un vrai problème chez la femme, pour l'implantation, voilà ce que vous devez retenir. Plus une femme fait de fausses couches, plus elle a de risques que le problème soit lié à l'implantation. C'est-à-dire une femme qui a fait 8 fausses couches, par exemple. Si on regarde l'analyse du produit de fausse couche, il y a très peu de chances qu'il y ait un problème sur l'embryon. C'est-à-dire, la plupart des cas, l'embryon va être normal chez une femme qui a fait 8 fausses couches de suite. Donc là, il y a un problème d'implantation, il y a un problème pour que la grossesse puisse se maintenir dans l'utérus. Comme je vous l'ai expliqué, un problème certainement d'ordre immunologique ou thrombotique, mais qu'on n'a pas encore défini à 100%. Par contre, si on regarde le produit de fausse couche des femmes qui ont fait 2 ou 3 fausses couches, dans la grande majorité des cas, c'est une anomalie chromosomique. Donc, c'est lié à la malchance, et c'est pour cette raison qu'une femme qui a fait 2 ou 3 fausses couches, elle a entre 7 et 8 chances sur 10 d'avoir un bébé à la grossesse suivante, alors qu'une femme malheureusement qui a fait 8 fausses couches de suite, à la grossesse suivante, elle a 10-15% de chances d'avoir un bébé. C'est un sujet très complexe sur lequel nous sommes ce soir, et j'espère ne pas vous embrouiller l'esprit, mais j'essaie de vous dire un petit peu l'état aujourd'hui des connaissances.
J'aimerais poser une question qui rejoint les traitements et qui rejoint le fait que ce soit complexe. C'est la prise en charge émotionnelle en fait des patientes, parce que à travers ce qui est décrit ce soir, on comprend que c'est quand même difficile et que ça touche beaucoup à l'espoir qui est bien malmené. Et nous, dans l'association Iliotima, on met beaucoup l'accent sur le soutien émotionnel parce que c'est ce qu'on fait et on comprend qu'en fait c'est important d'avoir du soutien de toutes parts, donc de la part du médecin, par exemple, comment ça se traduit? Comment est-ce qu'on peut aider et soutenir des femmes qui traversent cette épreuve-là?
Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. La meilleure façon de soutenir une patiente qui fait des fausses couches, c'est d'abord de ne pas minimiser sa détresse. La fausse couche, c'est un événement et c'est pas la peine de compter, c'est pas une, deux, trois. Même la première fausse couche, chaque fausse couche a un impact émotionnel, affectif extrêmement puissant. Et ça, le médecin doit absolument l'accepter, doit s'en rendre compte, il doit exprimer à la patiente de façon sincère, hein, c'est pas des recettes à lire ce qu'il faut dire, il faut exprimer le ressenti sincère de dire, je comprends ce que vous vivez. Et il ne faut pas sortir les phrases toutes faites du genre « tout le monde fait des fausses couches », un petit peu d'ailleurs comme je l'ai dit au début de la conférence, parce que ce sont les statistiques. Si on regarde les statistiques, oui, si on traite des robots, on peut dire « oui, vous avez de fortes chances, tout va bien se passer ». Mais non, pas parler comme ça. Faut expliquer aux gens et aux patients que c'est terrible ce qui leur arrive, et que même si pour nous, d'un point de vue médical, il faut qu'on rassure la patiente, on doit lui dire « vous avez fait une fausse couche, vous avez fait deux fausses couches », c'est très fréquent. D'un point de vue médical, ce n'est pas grave. Et d'un point de vue émotionnel, c'est très difficile et nous le comprenons et je le comprends. Et on va prendre le temps. On va pas parler déjà de l'avenir. Pour l'instant, on va parler de cette fausse couche. On va traiter cette fausse couche au mieux. Et ensuite, vous allez prendre le temps qu'il faut pour vous remettre. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir recours à un soutien psychologique, que ce soit psychothérapie classique, que ce soit donc, ça peut être aussi des prises en charge avec des méthodes alternatives, hypnose, sophrologie, parce que parfois quand on propose à une patiente un soutien en psychothérapie après une ou deux fausses couches, elle dit, écoutez, moi, docteur, oui, je veux bien aller voir un psy, mais je sais pourquoi je suis malheureuse, j'ai pas besoin de travailler sur moi-même, voilà, j'ai fait des fausses couches, je serai heureuse quand j'aurai un bébé. Et oui, je comprends très bien, mais quand on voit des patientes qui souffrent, on leur dit, si vous voulez pas voir de psychologue, alors on peut proposer, il faut pas avoir peur de proposer d'autres choses, et même, il y a beaucoup de thérapies que nous autres, les médecins, certains, il y en a certains qui connaissent très bien, puis il y en a qui connaissent pas du tout, qui présentent même du mépris pour ces autres thérapies. Il faut pas du tout. Il faut proposer un éventail large qui puisse convenir à la patiente. Donc je dis, ben, comprendre le malheur, voilà, vraiment
Ouais.
c'est un deuil. C'est un deuil. Une fausse couche, c'est un deuil. Faut s'imaginer. En fait, faut se mettre à la place du couple, tout simplement. Et encore plus, alors le couple, oui, et encore plus de la femme parce qu'elle va avoir la souffrance physique. Mais une première fausse couche, c'est inadmissible, c'est inacceptable en fait pour la patiente. Elle a déjà imaginé tout dans sa tête. Elle a construit, c'est la chambre du bébé, ça y est, tout va très bien, on va avoir un bébé, elle imagine tout ce qui va se passer, tout se prépare. Et puis là, vous couperez, la grossesse s'arrête. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dû faire une bêtise et le sentiment de culpabilité arrive tout de suite. Je sais très bien pourquoi. Je suis beaucoup trop stressé et je me suis engueulé avec telle personne et j'ai eu telle mauvaise pensée. Et tout ça, il faut absolument, donc ça c'est une autre réponse, vraiment, vraiment, vraiment déculpabiliser, mais en pratique la patiente. Il faut leur dire la vérité. Dans la majorité des cas, votre fausse couche est liée à une anomalie chromosomique. L'anomalie chromosomique, elle n'est pas liée au fait que vous ayez couru pour attraper le bus. Elle n'est pas liée au fait que vous soyez couché à 3 heures du matin pour finir votre présentation PowerPoint pour votre travail. Et je tiens absolument à déculpabiliser les patientes. C'est jamais de la faute de la femme si elle fait une fausse couche. Jamais, 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 à 3000%, et c'est la faute de personne. La plupart du temps, c'est une anomalie chromosomique. Donc, c'est lié au hasard. Et si c'est un problème immuno, c'est pas non plus lié à ce que la femme a fait. Donc, on doit déculpabiliser et aussi dire qu'une fois que l'épisode sera passé, on va revoir la patiente et on verra s'il y a besoin de faire un bilan ou pas. S'il n'y a pas besoin, on va pas faire le bilan, on va lui dire, écoutez, madame, votre événement, maintenant que ça va mieux, je peux vous le dire, il est extrêmement fréquent. Ce n'est pas grave du tout. Vous vous sentez mieux. Vous pouvez recommencer à tenter une grossesse sans angoisse. Si vous avez fait trois fausses couches, attendez, on va faire une pause là. On va faire tout le bilan, on va voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait améliorer. Si on trouve rien à améliorer, on va quand même aller ensemble et on va vous proposer, on va essayer des traitements. On va essayer, aucun n'est prouvé. Vous pouvez dire non, je veux pas prendre des médicaments qui sont pas prouvés. Ok, il n'y a pas de souci, mais en tout cas on accompagne. On dit pas aux gens rentrez chez vous puis vous revenez quand ça va.
Oui, c'est beau, un beau discours. Ça doit faire du bien d'avoir un médecin qui comprend sa patiente. J'ai une question. Il y a eu un congrès international des fausses couches à répétition qui a eu lieu là, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, quelques jours, qui était organisé par Israël cette année, qui est organisé par des pays différents chaque fois, cette fois-ci c'était Israël. Ça m'intéresserait de savoir est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont, est-ce qu'il y a des nouvelles techniques, est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'il y a des façons différentes de traiter selon les pays qui sont sortis de ce congrès?
Alors, très intéressant effectivement. Ben, figurez-vous que non, c'est un médecin israélien, le professeur Bassiri, qui est situé à l'hôpital Soroka à Be'er Sheva. C'est lui qui a monté l'association interne. Enfin, c'est lui qui fait le congrès. C'est le sixième congrès qui fait. Il le fait dans des pays différents, mais c'est toujours l'association médicale israélienne qui organise ce congrès. Et donc là, c'était à Bangkok. Alors c'est intéressant parce que comme c'était à Bangkok, il y avait des médecins de l'autre partie du monde. Il y avait des Indiens, Indonésie, Australie. Et du côté, pour l'Europe, il y avait Danemark. Et pour le côté États-Unis, il y avait des Américains, mais ils étaient en visio, et il y avait un Canadien. Il y avait aussi des Espagnols, mais ils étaient en visio aussi. Donc je dirais, premièrement, je remarque que même dans le monde entier, il n'y a pas énormément de monde, pas énormément de médecins qui s'intéressent à ce sujet. Donc c'est assez intéressant de voir que pas beaucoup de monde est venu. C'est pas très réjouissant, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on était 120. Alors, c'était très loin, c'est vrai, c'était à Bangkok. Mais en tout cas, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas d'anglais. Les Espagnols en visio, je vous dis. Les Danois, oui. Il y a une équipe du Danemark qui est venue et c'est une équipe qui a une clinique un centre spécialisé dans les fausses couches à répétition. Donc maintenant, je vais répondre à votre question. Vous avez demandé est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties? Alors, bah, comme il n'y a toujours pas eu d'essais gigantesques, de grands essais pour montrer l'efficacité d'un nouveau traitement, il n'y a pas eu, pour moi, de révolution. Mais il y a un nouveau sujet qui vient sur la table qui s'appelle le microbiote. Alors, le microbiote, on en parle un petit peu dans toutes les spécialités en ce moment, pas qu'en gynécologie. C'est regarder l'équilibre des bactéries dans la muqueuse. Alors, ça peut être soit dans le système digestif, et là, dans notre cas, c'est dans le système reproductif. Ils ont remarqué que chez des patientes qui faisaient des fausses couches, qui avaient fait des fausses couches, on avait vu un embryon normal, ou bien chez des patientes qui ont fait une fécondation in vitro et chez lesquelles on a mis un embryon normal avec sans anomalie chromosomique, ils ont réussi à faire des prélèvements bactériologiques dans l'utérus. C'est pas facile parce que quand on fait un prélèvement bactériologique dans l'utérus, on passe par le vagin et on passe par le col. Du coup, il faut arriver à ne pas prendre les bactéries qui sont sur le chemin. Et ils ont détecté un profil de bactéries qui pouvait être associé à des échecs d'implantation en fécondation in vitro et à des fausses couches. Et ça, c'est une piste qui est intéressante parce que les traitements, ils seraient pas tellement ce serait pas tellement compliqué d'arriver à modifier le microbiote. Donc maintenant, pour prouver que ça marche, il faudrait corriger la formule des bactéries dans le utérus avec un traitement. Et puis ensuite, il faudrait que ces femmes soient enceintes et vérifier que ça diminue les risques de fausses couches. Donc attention, toujours en médecine, pas de solution miracle, mais là, une piste intéressante. Sinon, moi, j'ai été à... Donc voilà, en tout cas, c'est ça pour moi la nouveauté qui est sortie de ce congrès. Ensuite, le fait de discuter avec des gens qui ont une vision, typiquement les pays qui ont des cliniques spécialisées dans les fausses couches à répétition. Par exemple, en France, il n'y en a pas. Les cliniques fausses couches à répétition, il n'y a pas. Au Danemark, il y en a une. En Israël, il y a le centre à Beer Sheva. Mais sinon, il y a des gynécologues qui s'en occupent, mais les centres spécialisés dans les fausses couches à répétition, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, pour moi, déjà une piste très intéressante. Il faut absolument le faire. Moi, j'avoue qu'en France, je travaille en collaboration avec le professeur Méquignon, avec toute l'équipe de Saint-Antoine. Donc, on est comme un centre de fausses couches à répétition, mais on n'a pas un bâtiment spécial où les patientes peuvent venir. Et les spécialités doivent être absolument ensemble. Il va y avoir des immunologues, il va y avoir des FIV. Qui font de la FIV, il doit y avoir des embryologistes qui sont capables de traiter les embryons, il doit y avoir des gynécologues qui doivent suivre les cycles, surveiller l'utérus. Donc, moi, principalement, ce qui est sorti de ce congrès, c'est l'espoir de pouvoir se mettre tous ensemble pour pouvoir faire des grandes études, comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des études qui vont être difficiles à faire, parce qu'il va falloir recruter beaucoup de patientes, des patientes avec des cas très particuliers. Pour pouvoir réussir à prouver l'efficacité de tel ou tel médicament. Parce que pour l'instant, chacun sort de son chapeau, et moi aussi, je pourrais vous raconter des histoires. Tel médicament a marché, tel médicament a marché. On sent, on a une intuition que chez certaines patientes, certains traitements fonctionnent, mais ça ne suffit pas. En médecine, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire oui, chez cette patiente, ça a marché, donc c'est sûr, ce médicament est bon. C'est pas bien. On doit apporter une preuve scientifique à ce qu'on fait, et pour cela, nous devons tester les médicaments contre le placebo, exactement comme l'histoire de l'aspirine que je vous ai racontée. Voilà une étude très bien faite, très honnête. Et ça, on doit le faire avec les autres médicaments avant de pouvoir dire oui, le prédnisone, ça marche, l'adalimumab, ça marche, le plaquénil, ça marche. Voilà, il y a pas tant qu'on n'a pas fait ces études, on peut pas dire ah tiens, je vais aller voir le docteur Cohen, il va donner il a un traitement miracle. Non, il n'y en a pas. Mais j'ai de l'espoir que avec tous les collègues à l'international, il va falloir se mettre à plusieurs pays, on arrive à mener des études bien faites.
Ça donne espoir. Moi, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions spécifiques sur le chat? C'est le moment avant qu'on termine. Il y a des remerciements, il y a des messages. Il y a des messages sympas. Merci docteur pour ces paroles. J'aurais aimé vous avoir connu il y a 12 ans. Le diagnostic de translocation a été trouvé chez nous après 3 ans. Je comprends.
Il n'y a pas d'anomalie
Et
chromosomique, c'est répété.
si quelqu'un a une question, n'hésitez pas.
Donc moi je peux, il y a une question là, la première question à 8h09. Je crois qu'on a un petit peu répété, on a un peu répondu à la question qui a été posée, pardon, à 21h09 par Laure Cohen. Quand il n'y a pas d'anomalie chromosomique et que c'est répété, eh bien c'est ce que je disais, c'est certainement une cause le plus souvent immuno, si on a éliminé le syndrome des antiphospholipides, et dans ce cas, c'est chez ces patientes-là qu'il faut essayer des traitements immunomodulateurs, sans qu'aucun, je le rappelle, ne soit encore validé aujourd'hui. Si vous voulez, je peux vous montrer quelques cas, mais peut-être que vous en avez marre.
Ah non, au contraire.
Alors du coup, il faudrait m'autoriser le partage d'écran. Donc, ce sont des cas cliniques, d'accord? De cas cliniques, on tire pas des. Je suis très prudent avec ça, hein, je m'adresse pas à un public de médecins, et je dois vous dire donc on tire pas d'un cas clinique une conduite à tenir générale. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le mode de raisonnement, comment on peut travailler dans les fausses couches à répétition. Alors. Là, vous voyez mon écran?
Oui.
Donc, voilà. Donc, vous me dites quand je vais vous faire quelques cas, c'est très rapide, hein, mais c'est pour que vous voyez un petit peu. Donc, typiquement, une patiente de 39 ans, elle a eu deux fausses couches spontanées, puis un accouchement voix basse, puis encore trois fausses couches. Donc là, c'est une patiente qui a cinq fausses couches, d'accord? Mais entre les deux, entre les cinq, elle a eu un accouchement, elle a eu un bébé. Donc, moi, dans ces cas-là, je vais vous dire ce qu'il y a dans ma tête. Je me dis, ah bah, elle a pas eu de chance. Mais en tout cas, les trois dernières, c'est sûr, c'est des anomalies chromosomiques, puisque comment expliquer qu'elle ait un bébé en bonne santé si elle avait un problème immunitaire, elle n'arriverait pas à être enceinte. Donc, voilà comment on réfléchit dans notre tête. On se dit tout de suite, bon bah. En plus, elle a 39 ans, donc elle a dû avoir des anomalies chromosomiques. Mais il faut se faire un petit peu violence parfois, il faut aller contre ses intuitions. Et les deux dernières fausses couches qu'elle a faites, ben, je la suivais déjà. Donc j'ai récupéré le produit de fausse couche et on l'a envoyé en analyse. Et un des produits de fausse couche, 46XX, c'est-à-dire un embryon de sexe féminin, mais normal. Et le suivant, 46XY. Donc là, c'est la réalité qui nous permet de changer notre opinion. Au lieu de se dire, bon, bah, ça doit être ça, comme on le fait toujours dans les fausses couches, ça doit sûrement être à cause de ça. Ben là, non, c'est pas un problème chromosomique. Elle a des embryons normaux. Et pourtant, elle a déjà fait cinq fausses couches. Et les trois dernières grossesses, ça a donné des fausses couches. Donc, chez cette patiente, en accord avec mon collègue, le professeur Méguignan, on a fait, donc moi, j'ai joué un petit peu sur les deux tableaux. C'est-à-dire, là, l'intérêt du gynécologue, c'est de stimuler pour essayer de doubler les chances, comme elle avait 39 ans. Donc, j'ai essayé d'obtenir deux follicules, c'est-à-dire doubler les chances à chaque cycle pour avoir une grossesse. Et on a donné le traitement par corticoïde et par hydroxychloroquine. Et la patiente, elle a été enceinte et elle a eu une grossesse avec un accouchement d'un bébé de 3,9 kg. Là, attention, c'est pas super, je vais aller voir le docteur Cohen, il fait des miracles, c'est pas ça. C'est pour vous dire un petit peu le mode de raisonnement. Je peux pas dire à partir d'un cas que oui, le cortensil et le plaquénil, ça marche chez les patientes qui ont des échecs avec des anomalies, pas d'anomalies chromosomiques. Mais en tout cas, la stratégie, il me semble qu'elle est honnête. On voit une patiente qui a pas d'anomalie chromosomique sur l'embryon. On tente un traitement immunomodulateur. Et là, ça a marché. Il y a d'autres cas où ça n'a pas marché, mais on m'a dit de montrer des cas positifs pour mettre un petit peu d'espoir. Mais en tout cas, chez cette patiente, ça a marché. Mais je pourrais aussi avoir le même cas, une patiente chez qui ça n'a pas marché. Donc, faut pas dire que... Voilà une patiente jeune, 28 ans, et qui a fait 13 fausses couches. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus une patiente est jeune et plus elle fait un nombre de fausses couches important, plus on peut imaginer que le produit de fausses couches va être normal, pas d'anomalie chromosomique. Bien cette patiente, non seulement on a pu regarder un produit de fausses couches qu'elle a fait à 8 semaines, que vous voyez ici, qui était normal, mais en plus, un autre point important, on a vu que sur l'analyse histologique, c'est-à-dire du tissu de l'embryon, il y avait une anomalie inflammatoire. Et donc cette patiente, elle a eu comme traitement, alors elle a eu les fameux traitements aspégiques et Lovenox, c'est les médicaments qui permettent de fluidifier le sang, puis elle a eu le plaquénil et de l'aspégine, voilà, l'aspégine pendant ces deux fois. Et malgré tout, elle a refait une fausse couche. Donc cette fois, en 14e fausse couche, à la 15e grossesse, elle a eu un traitement qui était beaucoup plus puissant, qui s'appelle Humira. Et ça, il n'y a que certains immunologues dans le monde qui veulent bien le donner, parce que on n'a pas prouvé, d'abord, on n'a pas prouvé son efficacité, et c'est quand même un médicament qui pourrait être dangereux. Potentiellement, on pourrait imaginer qu'il pourrait être dangereux sur la grossesse. Du
Madame.
coup, cette patiente, elle a eu le traitement par Humira et tout le reste, et elle a accouché d'un bébé, mais avec un retard de croissance, comme vous le voyez, parce qu'à 35 semaines, elle a accouché d'un bébé qui faisait 1,670 kg, et ensuite, on a eu des bonnes nouvelles. Pourquoi nous, on s'autorise à donner l'Humira avec mon collègue, avec l'équipe de Saint-Antoine? Parce qu'on a du recul. Ce médicament, il est donné chez les patientes enceintes qui ont des maladies auto-immunes, digestives ou cutanées, et il n'y a pas une augmentation significative du nombre de malformations, et c'est pourquoi, en expliquant bien sûr à la patiente les risques qu'il pourrait y avoir à donner un médicament qui n'est pas autorisé normalement dans ce cas-là des fausses couches à répétition, eh bien, elle a accepté. Bon, on peut toujours dire que ça se trouve c'est lié uniquement au hasard, mais un cas comme ça, 13, 14 fausses couches, et là, avec l'Humira, un bébé, pour moi, voilà, c'est là, ça prouve quand même une certaine efficacité, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour prouver l'efficacité d'un médicament, il faudrait au moins, je sais pas, 200, 300 patientes. Trouver 300 patients de 28 ans qui ont fait trois fausses couches, heureusement, c'est difficile, très difficile. Donc heureusement, pour l'espèce humaine, c'est difficile, mais malheureusement, pour prouver l'efficacité d'un médicament, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des patientes qui ont, heureusement, qui ont autant d'antécédents. Ça, c'est la même patiente. Une autre patiente, bon, j'arrête peut-être?
Non, 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 au contraire, c'est bien. Non,
Mais ça se trouve, vous n'êtes plus que deux.
on est 16.
Moi, alors, voilà une autre patiente qui, alors là, c'est un petit peu plus détaillé. Elle a eu un bébé en 2018, un bébé qui est né à 37 semaines et qui va très bien. Et depuis ce bébé, 5 fausses couches précoces et 2 grossesses extra-utérines. Les fausses couches très très précoces, toujours un HCG positif, mais qui ne dépasse pas 800. Donc, le bilan montre une suspicion de synéchie du fond utérin. Typiquement, qu'est-ce que c'est une synéchie? C'est une complication qui arrive après une aspiration. Pourtant, elle n'a pas eu d'aspiration, mais on suspecte qu'il y ait comme ça une anomalie sur l'utérus. Personne n'a jamais prouvé qu'une petite adhérence au fond de l'utérus pouvait faire des fausses couches à répétition. Enfin, on l'a vu. Et il y avait un bilan immunologique qui montrait des anomalies que je ne vais pas détailler. Donc, elle a essayé plusieurs traitements. Elle a eu aspégique, elle a eu les corticoïdes à forte dose, et à la cinquième fois, elle a eu corticoïdes, aspégique, acide folique, le Lovenox, l'Evothyrox pour la thyroïde, en Israël, Euthyrox, et la progestérone. C'était la cinquième fausse couche, et moi, je l'ai rencontré, le professeur Méquignan me l'a envoyé pour la cinquième fausse couche. J'ai essayé d'avoir un peu de produit de fausse couche pour l'envoyer en analyse, mais malheureusement, c'est une fausse couche trop précoce, et ce que j'ai envoyé, on n'a pas eu de... On n'a pas eu d'informations. Donc, on n'a pas d'informations sur les produits de fausse couche. Vous pensez qu'on ne sait pas. On sait pas. Pas la, voilà. Il y en a qui vont vous dire, bon, bah, c'est sûr, elle avait 37 ans, c'est sûr, ce sont des anomalies chromosomiques, parce que 5 fois. Et bien, moi, je dirais plutôt non, je ne pense pas. Mais penser, ce n'est pas tellement important. L'important, c'est la vérité. Et là, elle est rentrée dans un essai clinique qui a lieu à Paris. C'est l'interleukine 2, je ne vais pas détailler ici, mais pour l'instant, il est encore, c'est un essai qui cherche à inclure seulement 15 patientes. Et elle est rentrée dans cet essai clinique, donc avec interleukine 2. Je ne vais pas détailler ça, mais on a commencé donc l'interleukine 2. Première insémination intra-utérine qu'on a faite, parce qu'il y avait un peu des petits problèmes sur les spermatozoïdes, pas de grossesse. Deuxième insémination, deux follicules, comme pour la grossesse, la patiente que je vous avais présentée avant. Elle est sous protocole interleukine 2. Et là, elle a eu un test de grossesse positif, puis une diminution des HCG. Alors ça peut arriver quand on a deux follicules, parce qu'en fait, il y a certainement deux embryons qui sont développés et un qui s'est arrêté. Et finalement, elle a eu une grossesse. Ça, c'était son écho du premier trimestre, et elle a accouché il y a un an. Donc, ce que je veux vous montrer avec ces cas, mais je pourrais aussi vous montrer des cas plus déprimants. Ceux-là, ils sont bien. Mais ce que je veux vous montrer, je vais arrêter le partage. Là, c'est bon?
Ouais.
Ce que je veux vous montrer, c'est le mode de, pour moi, la meilleure façon de traiter les fausses couches à répétition. La chose la primordiale, c'est d'essayer d'avoir une analyse du produit de fausse couche. Donc, quand vous faites une fausse couche, si ça vous arrive, essayez avec votre médecin de faire parvenir votre produit de fausse couche en analyse cytogénétique. Parce que c'est la meilleure façon pour pouvoir réfléchir sur la suite. Aucun intérêt à essayer des traitements immunomodulateurs comme ceux que je viens de vous montrer, qui ne sont même pas prouvés, on n'a pas encore prouvé qu'on pouvait les utiliser, si on a des anomalies chromosomiques sur l'embryon à la fausse couche d'avant. Par contre, quand on n'a pas d'anomalie chromosomique à la fausse couche d'avant, ça motive le médecin et la patiente pour essayer des traitements nouveaux, même si ce n'est pas autorisé, même autorisé par les sociétés savantes, ça motive quand même.
Il y a une autre question. Ah, il y a une question sur le détail. Qu'est-ce que c'est le produit de fausse couche? J'imagine que c'est
Non,
l'embryon qui.
excusez-moi, excusez-moi. Le produit de fausse couche, c'est la façon, bah, c'est la fausse couche en fait. C'est-à-dire que quand une patiente fait une fausse couche, elle va expulser un embryon. On voit jamais un embryon, mais il y a un embryon entouré de tissu de grossesse, et bah, c'est ce qui tombe lors de la fausse couche. C'est comme ça qu'on l'appelle le produit de fausse couche. C'est vrai, excusez-moi, c'est un vocabulaire médical, donc, mais je sais pas comment le dire. Mais... La fausse couche. Analyser la fausse couche.
Il y a une autre question au-dessus. Quand vous dites que vous testez les embryons, c'est seulement quand on récupère le sac gestationnel après un curetage, n'est-ce pas? Est-ce que ces tests génétiques sont accessibles à tous?
Donc, là, quand on teste, tester la fausse couche pour vérifier a posteriori ce qui s'est passé, ça, c'est, j'ai récupéré le sac gestationnel soit après un curetage, soit après une fausse couche à la maison. Là, je vais dire des choses qui sont peut-être un petit peu dégoûtantes pour les âmes sensibles, mais si vous faites une fausse couche à la maison, vous pouvez récupérer le produit de fausse couche, c'est-à-dire la fausse couche, la mettre dans un récipient en verre, la couvrir avec du sérum physiologique que vous trouvez à la pharmacie, vous le mettez au frigo, et vous demandez à votre médecin s'il a le réseau, s'il sait faire, s'il sait envoyer. Il y a des laboratoires dans tous les pays qui sont capables d'analyser ce produit de fausse couche. Donc, oui, c'est accessible à tous, à condition d'avoir un médecin motivé. Et j'en connais, moi, dans pas mal de pays qui peuvent vous aider pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, tester les embryons, là c'est autre chose. Tester l'embryon, c'est une méthode dont je vous ai parlé au début de la conférence, c'est-à-dire thérapeutique, transférer un embryon normal. Et ça, c'est accessible à tous, mais ce n'est pas autorisé dans tous les pays. Par exemple, en France, on peut tester les embryons pour rechercher une maladie qui existe dans la famille. Il y a une maladie génétique qui a été identifiée chez un des deux parents. On peut tester l'embryon. On a le droit. Ça s'appelle le DPI, diagnostic préimplantatoire. Un an et demi d'attente, seulement trois centres autorisés en France. Mais en Espagne, mais par contre, en France, vous n'avez pas le droit parce que vous avez fait quatre fausses couches de tester les chromosomes de l'embryon. C'est interdit. En Espagne, en Israël, aux États-Unis, dans la majorité des pays, on a le droit de faire la recherche sur l'embryon. Ça coûte cher. Souvent très mal remboursé. Par exemple, en Espagne, une fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire, c'est aux alentours de 8 000 euros. C'est très cher. Donc, c'est pas du tout encore dans la pratique quotidienne. Donc, dire que c'est accessible à tous, c'est non, c'est pas vrai.
En Israël, c'est bien mieux pris en charge.
Pas vraiment. Le diagnostic préimplantatoire pour c'est cher aussi. Ce qui est bien pris en charge, oui, la fécondation in vitro, en Israël, en Espagne aussi, pour les Espagnols. Mais la recherche sur les embryons, c'est toujours cher. Donc, c'est faut le savoir. Faut le savoir. C'est pas toujours tous les embryons. Enfin, c'est quand même une médecine qui reste encore chère.
On a encore une question, je regarde. Non, je crois qu'on a traité toutes les questions. Je crois qu'on a traité toutes les questions.
Donc oui, Esther dit, je ne pensais pas qu'on pouvait récupérer le produit de chez soi. C'est normal que vous ne le sachiez pas. Même 99% des médecins ne le savent pas. Et en fait, moi-même, d'ailleurs, je le savais pas. Je l'ai appris du laboratoire qui m'a dit, mais tu sais, s'il n'y a pas besoin d'être stérile, il suffit juste que tu le laisses, qu'il laisse au frigo dans du sérum physiologique, puisque nous-mêmes, on va l'envoyer à un autre centre. Il va rester plusieurs jours dans le frigo chez nous. Il n'y a aucun problème du moment qu'il est dans le sérum physiologique et qu'il est gardé au frigidaire. C'est pas un pot stérile.
D'accord. Ben, s'il n'y a plus de questions, je remercie le docteur Jonathan Cohen. Merci beaucoup pour ce webinaire, cette conférence. Merci pour le temps consacré. Merci d'avoir répondu aux questions et merci d'avoir été très clair. On va envoyer les coordonnées du docteur Jonathan Cohen pour toutes celles qui veulent le consulter. Ça sera envoyé demain à l'issue de la conférence. Merci à toutes celles qui se sont connectées. Je crois qu'il y a eu un petit cafouillage d'heures selon les pays. Donc, je pense qu'il y a moins de personnes connectées que ce qui aurait dû. On a enregistré le webinaire et on va l'envoyer à toutes les personnes qui s'étaient enregistrées. Comme ça, personne ne l'aura raté.
On vous
Je vous
remercie
remercie.
infiniment de m'avoir accueilli pour ce sujet difficile. C'est un sujet qui est difficile, donc pour les, je veux dire, à entendre, pour tout le monde. Et c'est bien que c'est un sujet même qui reste un peu tabou dans la société.
C'est
C'est
vrai.
très courageux de votre part d'avoir organisé cette réunion, et moi je serai toujours prêt pour en parler, parce qu'il faut, il faut écouter, il faut conseiller. Et les gens, énormément de femmes souffrent de pas forcément des fausses couches à répétition, même d'avoir fait une ou deux fausses couches, et on n'en parle pas. Et quand elle commence à ouvrir la, commence à en parler autour d'elle, ah, mais moi aussi, ben pourquoi tu me l'as pas dit en fait? Parce que moi, ça m'aurait bien, c'est important d'en parler entre vous. Il y a d'ailleurs un très joli livre de Madame Lemiel qui s'appelle Mais presque rien, que je vous conseille. Très très, c'est une bande dessinée, il y a de l'humour. Il y a beaucoup de choses qui permettent de comprendre le sujet. Si vous voulez, je vous donnerai le lien, comme ça vous pouvez le transférer. Mais presque rien.
Ben, merci beaucoup, docteur Jonathan Cohen. Je me permets de conclure sur l'association Liatima en disant que, bien évidemment, on aide toute femme qui a besoin de soutien dans son parcours de fertilité et qu'on recrute, entre guillemets, des marraines, à savoir des femmes qui sont elles-mêmes passées par des parcours de fertilité, qui ont envie d'aider. Donc, si vous vous sentez concerné et que vous voulez rejoindre l'association pour aider quelqu'un d'autre ou pour vous faire aider, rendez-vous sur notre site internet qui s'appelle liotima.com. Là-bas, tout est expliqué, tous les formulaires sont en place. Il y a le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous aider. Tout est bénévole et tout est gratuit. Merci beaucoup, merci à vous, merci docteur et bonne soirée à tout le monde.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci, bonne soirée.